Balado 96.9. Inspiration Inc. Présenté par la Banque nationale.
Bonjour tout le monde et bienvenue à Inspiration Inc. Connecter des gens à Internet, c'est vraiment plus un défi pour personne, mais connecter des objets pour bonifier l'expérience lors de leur utilisation, ça, c'est le défi que s'est lancé l'entreprise Connect & Go. Et pour nous en parler aujourd'hui, Philippe, bienvenue tout d'abord.
Bienvenue, merci.
Là, c'est très particulier aujourd'hui parce que tu connais le cofondateur de l'entreprise Connect & Go, Dominique Gagnon.
Oui, en fait, on se connaît très, très bien. On a eu une relation d'affaires. On a fait des affaires ensemble, des bonnes, des vraiment pas bonnes. On a eu une relation pendant longtemps de love and hate.
Ah.
Mais aujourd'hui, je suis content de l'avoir dans mes bons chums. Alors, c'est quelqu'un que je connais bien. C'est quelqu'un avec qui aussi je fais des mandats en ce moment, dans le sens où on se croise sur des mandats.
Mm-hmm.
Alors, je suis bien content qu'il ait accepté de venir nous parler de sa nouvelle grande aventure qui est Connect & Go. Connect & Go, c'est une entreprise de Montréal qui a environ une cinquantaine d'employés à temps plein.
Okay.
C'est une entreprise qui a également plusieurs millions de chiffres d'affaires. Et c'est une entreprise qui a un rayonnement international. On parle là, de rayonnement dans le sens où elle a fait le party du Super Bowl. Alors, c'est une compagnie à connaître.
Inspiration Inc. Portrait d'entreprise.
Dominique Gagnon, cofondateur de Connect & Go, merci d'être là.
Ça fait plaisir.
On aimerait ça, Dominique, premièrement, que tu nous expliques un peu qu'est-ce que c'est exactement ton entreprise.
En fait, on est reconnu surtout pour des bracelets intelligents. On fait le logiciel qui permet de lire les puces. Si vous êtes allé dans des festivals comme Juste pour rire, comme Oceaga, Il Sonic, c'est tous des événements qu'on fait. Donc, c'est un bracelet qui permet de faire trois choses, qui permet de contrôler les accès, donc permettre aux gens de sortir et d'entrer, et aussi d'avoir de la donnée, évidemment. La chose qui est la plus importante chez nous en ce moment, c'est le paiement. Donc, c'est aussi de pouvoir relier cette puce-là à votre carte de crédit, un peu comme PayPass. Donc, trois bières, je scanne mon bracelet, hop, c'est fait. Évidemment, ça augmente les dépenses.
Évidemment.
Et la troisième chose, c'est de faire des médias sociaux, donc relier sa puce à son ADN numérique et de pouvoir publier sur les réseaux sociaux avec le bracelet.
Et comment vous est venue l'idée de créer cette technologie-là?
L'idée, c'était du temps, j'avais une entreprise qui s'appelait Piranha. On faisait de la mobilité, de l'exploitation de commandites, des gros clients. Et j'ai une agence de Montréal, Bleu, Blanc, Rouge, qui m'ont appelé pour dire, on aimerait ça faire une clé connectée pour le stade Saputo.
Okay.
Donc, Saputo, c'est des Italiens. Le concept marketing qu'ils avaient développé, c'est de dire, on aimerait ça donner la clé du stade aux fans. Et que quand ils arrivent, l'expérience est personnalisée pour eux. Donc, moi, évidemment, je suis un vendeur. Ça, je ressemble à Philippe qui est là un peu là-dessus. J'ai dit oui, je suis capable sans avoir aucune idée de comment faire.
Est-ce que ce serait une leçon à tirer de ça? Dire toujours oui, même si on le sait pas?
Sincèrement, je dirais que mes ingénieurs en bas te diraient non. Dernièrement, on a vendu un festival d'hiver. Notre technologie semblerait ne fonctionnait pas l'hiver, mais on réussit toujours. Mais effectivement, ça, c'est l'aspect un peu... je pense que c'était Steve Jobs qui avait dit que si les gens... pense pas que c'est impossible, ils ont pas le choix de le réaliser.
Et voilà.
Fait qu'on a décidé de faire ça. J'ai cherché sur Google une compagnie qui faisait des bracelets ou des puces. Et j'ai trouvé Academia RFID, qui était une école en technologie RFID qui mettait des puces dans les camions. Donc, il y avait une compagnie de camionnage et ils traquaient les produits frais dans des camions. Et je me suis dit, s'ils font ça, ils doivent bien être bons pour faire d'autres choses. Donc, je me suis rendu là-bas. C'était une grosse business bourrée de camions, très industrielle. Et je me suis associé là avec mon associé d'aujourd'hui, Anthony Palermo. Il a dit, ouais, si je traque des produits, je suis capable de traquer des humains. Donc, on a développé la clé du stade.
Et ce gars-là est devenu ton partner en affaires.
Ouais. On a commencé comme ça. J'ai vécu la famille italienne aussi. Il s'appelle Anthony Palermo. Donc, même l'aspect d'avoir à la blague un étranger qui rentre dans la famille, ça a été un beau petit défi. Mais aujourd'hui, c'est mon associé depuis les cinq dernières années qu'on est ensemble en affaires.
Quand tu te lances en affaires, il y a une des choses qui est importante, c'est de savoir bien t'entourer.
Oui.
Je pense qu'on l'a appris dans d'autres expériences à la dure, de mal s'entourer. Mais là, c'est une belle réussite. Y a-tu d'autres choses? Comment vous avez fait pour développer le marché international?
C'est assez fou, en fait, de dire que la plupart des gens nous ont appelés. Ce qui est le fun du milieu événementiel, surtout, c'est que c'est un petit milieu, même si c'est un énorme milieu en même temps. Donc, Oceaga, qui a été notre deuxième client, fait qu'on a été assez chanceux de ce côté-là de réussir à avoir la confiance d'Ivenco. Tout le monde de l'industrie de la musique vient à Oceaga. Donc, dès que tu fais Oceaga, les gens voient ton bracelet, t'appellent, donc tu signes d'autres mandats. Et c'est devenu une boucle, je dirais, à peu près 75% de nos ventes, c'est des gens qui nous appellent. Donc, le Super Bowl, nous ont appelé le 23 décembre pour nous dire « Ça vous intéresse-tu de faire le Super Bowl? » Moi, mes médicaments t'as fait pour signer le Super Bowl, ben, ils m'ont appelé. Aussi simple que ça.
Inspiration Inc. Si je veux faire pareil, je fais comment?
Moi, j'ai besoin de comprendre, Dominique, là, au moment où toi et ton partenaire avez eu l'idée, vous avez créé le premier, non pas bracelet, mais cette puce-là, cette technologie-là. OK, c'est créé. Bon, on fait quoi, là? On part où? On loue un entrepôt. Faut créer aussi, évidemment, les objets pour que pour connecter cette puce-là. Comment vous vous y prenez? C'est quoi le plan de match?
Le meilleur plan de match, je pense, c'est de pas en avoir. Mais
okay.
On ne crée pas la puce. En fait, la puce existe déjà. Donc, on a pris quelque chose qui existe puis on l'utilise dans une autre industrie.
Okay.
Donc, la RFID, c'est utilisé depuis 40
Parfait.
Ans, dans, entre autres chez Walmart, pour traquer l'inventaire. Donc, c'est une vieille technologie que nous, on s'est dit comment on peut la prendre et l'amener dans une autre industrie. L'avantage à ce moment-là, c'est qu'on avait chacun une entreprise. Moi, j'avais à peu près une quarantaine d'employés chez nous. Lui avait 5-6 employés chez eux. Donc, ça nous a aidé aussi à aller beaucoup plus vite parce qu'on avait chacun des locaux. On avait chacun des équipes.
Les
et ces équipes-là étaient aussi payées par nos autres projets. Fait que ça a été une façon assez intéressante de créer une entreprise qu'on appelle un joint venture, donc prendre deux entreprises et les mettre ensemble. C'est vraiment comme ça qu'on l'a créé. Donc, très, très rapidement, ça a été. On n'a même pas eu le temps de réfléchir parce qu'on a signé le Stade Saputo. Ensuite, on a signé Oshiaga. Puis ensuite, le téléphone s'est mis à sonner. Fait qu'on se réveille 4 ans plus tard avec une trentaine de personnes dans l'équipe, une centaine, sans trop avoir vu ce qu'on a fait. On n'a pas eu de plan de match.
Ton background académique, ça ressemble à quoi? Est-ce que tu es un entrepreneur né ou est-ce que t'as étudié pour faire ce que tu fais aujourd'hui?
Je pense pas qu'on peut devenir entrepreneur.
Non? Fait
qu'effectivement, je pense que je suis né entrepreneur. J'ai un parcours académique refusé dans 3 universités. J'enseigne dans les 3. fait que je suis un TDAH pur et dur avec troubles d'opposition. Je déteste l'autorité et tout ce qui vient avec. Les entrepreneurs sont rarement les premiers de classe et rarement ceux qui font un doctorat. Parce que ça ne fit pas nécessairement avec cette personnalité-là de vouloir faire que tout arrive vite.
Mmh. Donc, mais t'es allé en gestion, t'es allé...
J'ai un bac en communication parce que c'est la seule université qui m'a accepté à l'Université Laval. Fait que étant refusé partout en administration, moi j'avais poché mes maths 436. Il y a une université qui finit par m'accepter, fait que j'ai fait de la publicité sociale. J'ai fondé mon entreprise à la première année de l'université pour me divertir.
Je pense que comme entrepreneur, puis encore une fois, là, je connais bien Dominique, on trace son chemin à travers des épreuves, des échecs, des succès. Parle-nous un peu des moments plus durs.
Je pourrais en parler pas mal. J'ai vécu l'aspect de réussir jeune. Quand j'ai fondé Piranha, on a gagné 32 prix, dont la meilleure entreprise de l'année, meilleure gestion des ressources humaines au Canada. On était vraiment les vents dans les voiles.
Personnalité InfoPresse.
Personnalité InfoPresse de l'année. J'étais à côté de Guy Crevier, de la présidente de Cossette. Moi, j'étais comme un gamin qui lisait InfoPresse l'année d'avant et qui faisait « c'est vraiment cool ». Je viens des régions en plus. Fait que pour moi, ce monde-là était plus grand que moi.
Et t'avais quel âge à ce moment-là?
J'avais 21 ans.
Et là, t'as?
Là, j'ai 29. Puis, en fait, j'ai vécu justement ce côté-là d'avoir beaucoup de succès, beaucoup de reconnaissance. Je suis devenu mon entreprise. Donc, mon nom sur Facebook, c'était Dominique Piranha. C'était plus Dominique Gagnon, c'était le nom de mon entreprise. Et à un certain moment, suite à un séjour à l'école d'entrepreneurship de Beauce, moi, je m'occupais pas vraiment de mes finances. En fait, je me disais, si la compagnie fait de l'argent ou quelqu'un me dit qu'elle en fait, c'est correct. Puis si les paiements passent, c'est correct. Et à l'école d'entrepreneurship, ils me disent, un président qui s'occupe pas de ses finances, pas un président. Fait que pour moi, c'était comme deux claques à la gueule. Et là, je me dis, je reviens au bureau bien motivé, puis là, je dis, je vais me mettre à m'occuper des finances.
Oh.
Et là, j'ai réalisé qu'il y avait 700 000 $ qui avaient disparu. Malheureusement, de l'entreprise. Fait que du jour au lendemain, je suis passé de succès à des huissiers.
À faillite?
Proche de la faillite, extrêmement proche de la faillite. J'ai réussi à m'en tirer puis à travailler extrêmement fort, mais... Je dirais que j'ai vécu, on calculait peut-être 18 huissiers. Fait qu'à un certain moment, il faut que tu te mettes à t'amuser. Moi, je me mettais du beurre de pinot dans la main quand il venait pour lui serrer la main puis mettre un peu le bordel. Fait que tu finis par...
T'es un rebelle, toi.
Toi, tu trouves, il faut que t'en ris, parce que sincèrement, c'est le chaos. Fait que t'as pas le choix d'en rire. Fait que j'ai vécu effectivement ce moment-là qui m'a ramené énormément les deux pieds sur terre.
Je pense que, encore une fois, parce que je connais Dominique, je pense que la naissance d'un enfant, tu sais, on a vécu ça, là, ça remet aussi les pendules à l'heure.
Effectivement. Effectivement. Moi, je pensais que ma fille, c'était comme juste une autre business. En fin de compte, ma fille me demande plus que les 6 business en entier. Fait qu'effectivement, ça a un peu changé une chance que je dors pas beaucoup. Je pense que notre génération d'entrepreneurs, on n'a plus besoin de travailler 80 heures pour se prouver. On cherche à être de plus en plus efficace. Puis c'est un peu aussi l'aspect de la qualité de vie qu'on veut se donner. Fait que pour moi, aujourd'hui, même si j'ai encore 4 entreprises qui sont actives, en plus de Connect & Go, je travaille peut-être 45, 50 heures, ce qui me semble tout à fait raisonnable versus ce que je faisais avant.
Connect & Go est voué à un succès mondial. Veux pas,
c'est le but, c'est la conquête du monde.
Comment que tu gères ça, là, tu sais, des déplacements? Là, parce que moi aussi, j'ai eu une carrière à une certaine époque où je voyageais. C'est pas fait pour tout le monde, c'est tough.
Mais moi, c'est une passion, en fait. Puis je trouve justement qu'au Québec, on n'exporte pas assez. Nous, juste de travailler aux États-Unis, on fait quand même 30 % de dollars de plus d'argent à ne rien faire de plus, juste à cause du taux de change. Donc, il y a tellement d'opportunités au niveau des voyages que ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Mais je pense que pour moi, en fait, la place où je m'ennuie le plus, c'est quand ça fait 2-3 semaines que je suis au Québec. Ça m'ennuie un peu.
Dominique, si quelqu'un un jour veut t'acheter ton entreprise, il t'offre là un montant extraordinaire, est-ce que tu vends ou est-ce que tu la gardes pour toi?
Je dirais que ça, c'est arrivé peut-être 8 fois dans les 2 dernières années qu'on aurait pu atteindre ce qu'on appelle l'indépendance financière. On est passé proche à certains moments, c'est sûr que c'est attirant, mais en ce moment, on croit tellement dans notre projet, on pense tellement qu'on est capable de la doubler, de la tripler, qu'en fait, on a décidé de se changer de position, de plus être une compagnie qui peut être acquérie, mais de devenir un acquéreur. Mm-hmm. Donc évidemment, soit on va chercher à aller conquérir des nouveaux marchés, donc on regarde pour l'Europe, ou soit on regarde à diversifier notre offre, donc on a une dizaine de cibles actuellement qu'on regarde pour possiblement faire des acquisitions.
Avec Connect & Go, là, si tu veux retourner en arrière, qu'est-ce que tu ferais différemment?
Rien. Rien du tout. Pis c'est l'avantage de m'être entouré aussi de Anthony, qui est l'opérateur de la business. Anthony gère le business au quotidien. Moi, je dis toujours que je suis la mascotte. Fait que j'ai aussi ce côté-là. Et ce que j'ai beaucoup aimé d'une famille italienne aussi, c'est une façon de gérer une compagnie technologique qui est différente. Eux, il faut faire des profits à chaque mois. C'est super important d'avoir des bases solides et d'être profitable. Tandis que tous nos concurrents, ils ont levé des millions, ils perdent de l'argent, puis ils espèrent un jour que Google ou Microsoft les achètent. Pis je pense que c'est ce qui nous permet de grossir de manière aussi indépendante. C'est qu'on n'a pas de boss, on n'a pas d'investisseur. Fait qu'on peut
dans
prendre
les
nos
dernières années, là, c'est que tu as un paquet de startups à Montréal qui font pas une scène.
Ah,
ils font pas d'argent.
Et qu'est-ce
à
qui
tous
fait que
mois?
Toi, que ça réussit versus eux ou ça réussit pas? C'est quoi la différence?
C'est un modèle d'affaires qui est différent. Le modèle d'affaires du capital de risque, généralement, s'ils mettent 1 million dans ton entreprise, ils veulent faire 10 millions dans 5 à 7 ans.
Okay.
Donc, ils vont pousser au maximum ton entreprise pour la vendre. Donc, pas nécessairement pour créer de la valeur sur le long terme. Pas nécessairement pour dire que tu vas, pendant 20 ans, fonder un couche-tard de ce monde ou un CGI. Ce qu'ils veulent, c'est un retour sur leur investissement rapide. Et ce que les gens oublient, c'est qu'il y a personne qui te donne de l'argent pour rien.
Mm-hmm.
Donc, évidemment, quand tu te fais donner de l'argent, souvent, on est entrepreneur parce qu'on veut pas de boss. Un investisseur, c'est un boss. Il rentre dans ton business puis il te dit quoi faire. Donc, il te met évidemment une pression. Puis ça peut être intéressant. Même nous, on est rendu à une certaine étape où on réfléchit parce que certains moments, tu veux acheter des gens, ça coûte des millions de dollars. On a 29 ans, on peut pas avoir ces millions de dollars-là dans notre compte. Donc, faut y réfléchir, mais c'est aussi de trouver les bons partenaires au niveau financier parce qu'il y a des capitales de risque qui viennent de la Silicon Valley. Il y a la caisse de dépôt. Il y a des compagnies qui sont plus locales ou plus institutionnelles qui peuvent t'appuyer. Donc, c'est de choisir les bons partenaires en fonction de qui t'es. C'est comme moi, je peux pas accepter que quelqu'un me dise quoi faire. Donc, il faut que je trouve quelqu'un qui va accepter de prendre des risques avec moi.
Comment est-ce que tu vois la compétition?
La compétition, pour moi, est pas directe. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de concurrents. On en a quelques-uns. Eux parlent constamment de nous et nous, on se préoccupe très, très peu d'eux. Pour nous, on regarde beaucoup plus qu'est-ce qui se passe dans le marché, comment que les gens vont consommer, puis on regarde pas nos compétiteurs directs parce qu'on sait ce qu'ils font, on sait leurs forces, leurs faiblesses. Mm-hmm. Moi, j'aime mieux m'inspirer. Tu sais, dernièrement, on faisait un meeting au bureau, on disait comment notre technologie pourrait s'inspirer de Tinder, comment on pourrait s'inspirer de d'autres succès. Donc, on a développé un système d'intelligence artificielle où tu scannes ton bracelet et ça va te dire les 10 personnes dans la salle les plus pertinentes à rencontrer.
Selon
tes critères.
Supposons que tu vas à C2 Montréal, tu sais, qui sont nos partenaires. Fait que tu dis, OK, moi, je travaille en événementiel, j'ai ici, je scanne mon bracelet, ben ça va me dire, tu devrais rencontrer Marianne parce qu'elle connaît tout le monde dans l'événementiel. Donc, tout ce logiciel-là. Donc, c'est un Tinder in the business.
Comment que tu jugerais l'importance du focus, d'avoir du focus?
Le focus est surtout sur ce que j'aime puis ce dans quoi je suis bon. Parce que c'est aussi une relation bien, bien forte. Ce que j'aime pas, je suis incapable d'être bon. Donc, j'ai compris que c'est jamais moi qui va faire les finances d'une business. C'est jamais moi qui va gérer l'administration. C'est de trouver le bon partenaire. Aujourd'hui, je suis bon dans deux choses. C'est d'avoir une vision puis de faire des ventes. Donc, 99 % de mon temps est juste consacré à faire ça. Ce qui fait que je peux plus travailler vendredi après-midi. Je peux travailler moins fort parce que je fais ce que dans quoi je suis bon. Donc, ça, c'est peut-être le focus sur lequel je crois beaucoup de ce côté-là.
Tu as vécu des échecs. Quelle serait la meilleure attitude à avoir justement quand on est confronté comme ça à une faillite, à un échec?
Ben, je pense que c'est on le dit souvent en anglais, never give up, mais c'est l'aspect. Des fois, les gens me disaient, ah, t'as été courageux, tu sais, quand t'as presque tout perdu. C'est même pas du courage. C'est comme, c'est ça ou mourir. Fait que c'est juste, j'étais désespéré. Fait que, tu sais, tu vas faire une vente, puis là, le client, il dit, OK, j'achète ton produit. Tu pourrais-tu me payer tout de suite? Puis là, tu le fais payer tout de suite, il veut un chèque. Ah non, mais j'ai une machine pour prendre ta carte de crédit. Fait que tu deviens extrêmement créatif, mais c'est un instinct de survie. Parce que quand t'as passé proche de tout perdre, tu réalises beaucoup plus comment c'est important de bâtir quelque chose qui est solide. Parce que ça ça fait peur. C'est vraiment un des gros avantages.
Tu regardes la jeune génération d'entrepreneurs, là, tu sais, la nouvelle pousse qu'on appelle. C'est quoi les conseils que tu leur donnes?
Conseils que je leur donne, je pense, c'est surtout de ne pas prendre trop de conseils. Je pense qu'en ce moment, il y a plus de coachs que d'entrepreneurs. Là. Fait que c'est comme l'industrie du coaching. Moi, je suis un peu tanné de ça. Il y a 92 coachs pour entrepreneurs, puis pourtant, ils n'ont jamais fait une paye. Pour moi, être entrepreneur, c'est d'arriver de faire comment je vais faire la paye. Je pense que c'est de s'écouter puis d'être passionné. Mais ce que je disais, entre autres, justement, encore aux jeunes d'Amos, c'est lancez-vous donc jeune. Parce que quand tu n'as rien, tu sais, tu habites chez ta mère puis tu n'as pas d'auto, c'est tellement le meilleur moment parce que tu n'as rien à perdre.
Tu n'as pas de responsabilité.
Tu n'as pas de responsabilité, puis le pire qui peut t'arriver, c'est juste de tomber puis de te relever. Quand tu es rendu avec une maison, deux enfants,
le risque est plus grand.
C'est puis aussi, tes décisions à toi s'impactent. Moi, quand j'ai passé proche de tout perdre, ben ma femme aussi a passé proche de tout perdre. Mm. C'est pas son choix, elle, de lancer des business puis d'être comme ça. Ouais,
je pense qu'on a un parcours, moi et lui, qui sont similaires, qui est atypique dans le domaine, parce qu'on a souvent parlé de nos échecs. Mais c'est cette capacité que je reconnais en Dominique d'être résilient,
ouais,
de remonter en selle, de dire les choses telles qu'elles sont. Un chat, c'est un chat avec Dominique. Ouais. C'est pas un chat.
Mais c'est tout à ton avantage parce que on sait, tu sais, what you see is what you get. Ouais. On sait exactement à quoi s'attendre avec un genre d'entrepreneur comme toi. Puis ça, je pense que c'est la clé.
C'est pas tout le monde qui aime ça.
Non.
La franchise, c'est pas accepté de tous.
Je suis convaincue.
Effectivement, je pense que c'est important.
Dominique Gagnon, cofondateur de Connect & Go, merci infiniment d'avoir pris le temps de venir à notre capsule d'inspiration.
Merci beaucoup.
Merci, Dominique.
Inspiration Inc. Les enseignements.
Ça a été une rencontre très inspirante qu'on a eue avec Dominique Gagnon. Philippe, qu'est-ce que tu as retenu, toi?
En fait, la première chose, c'est qu'il faut de l'énergie. C'est un gars énergique.
Ouais.
Il faut de l'énergie en affaires. L'autre affaire qu'il nous a dit, c'est il faut être têtu. C'est bizarre comme qualité.
Avoir une tête de cochon.
Ouais, avoir une tête de cochon. Puis surtout, savoir se relever.
Ouais.
Dans l'adversité, cette capacité-là de te tenir debout, de te relever quand tu manges une claque, là, mais tu te relèves, tu te remets en selle. Puis la dernière chose, je pense, c'est, il nous l'a dit, puis ça m'a frappé, de se lancer en affaires jeune.
Mm-hmm.
T'as moins... C'est sûr, là, moi, j'ai deux enfants. Des fois, je réfléchis pas mal plus que je devrais.
Le risque est moins grand quand t'as pas de responsabilité, quand t'as rien.
Hey, il nous a dit carrément, t'es chez ta mère.
Ben oui.
Puis je suis des parents, lance ton affaire. Donc, de te lancer jeune, je trouve que c'est une très, très bonne idée.
Philippe, merci beaucoup. Ça a été un plaisir d'animer cette belle capsule d'inspiration avec toi.
Merci à toi.
À la prochaine.
D'autres épisodes avec des passionnés, très bientôt sur c'est quoi.com. Inspiration Inc. Une présentation de Banque Nationale. Réalisons vos idées. Balado 96.9.